Alors bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis heureuse de partager avec vous ce temps de culte que nous voulons rendre à notre Seigneur. Ça fait très longtemps que j'étais pas revenue dans cette église et je salue les personnes qui m'ont connue il y a 35, 40 ans déjà. Voilà. Nous allons ensemble découvrir une dimension assez particulière de la rencontre avec Dieu ce matin au travers de ce temps que nous allons vivre. Et nous venons d'entendre ce texte du 2 Chroniques, chapitre 20. Josaphat a un problème. Il est le roi du royaume de Juda, le roi du royaume de la louange d'ailleurs, parce que Juda en hébreu veut dire louange. Et son problème, trois ennemis qui décident d'unir leurs forces pour exterminer son peuple, pour tuer son royaume. Effacer le royaume de Juda de la surface de la terre. Et Josaphat est informé que des milliers de soldats avancent vers son royaume. Josaphat prend peur. Que fait-il alors? Il convoque très certainement ses ministres, autres chargés de fonctions importantes pour un conseil de guerre ici et maintenant. Peut-être pour se poser les questions suivantes: quelles sont les conditions dans lesquelles la guerre va se mener? Est-ce que c'est un désert, une région montagneuse? Est-ce qu'il s'agit peut-être d'un plateau? Quelles sont les armes de ses ennemis? Quelles sont les stratégies militaires employées? Quel nombre représente-t-il? Eh bien non. Josaphat ne fait rien de tout cela. Et son action se résume à deux choses. Nous venons de le lire. Il publie un jeûne pour tout ce royaume de Juda. Et il décide de chercher Dieu, de consulter le Seigneur. Ça paraît étrange quand même, hein? Face à une bataille imminente en stratégie managériale, moi, j'aurais pas fait ça. Que fait-il? Dans sa profonde détresse, il cherche Dieu. Et c'est vrai qu'en général, quand on dirige, on a une forte tendance à essayer par nos propres moyens diverses stratégies pour se sortir d'une impasse telle que celle-ci. Josaphat avait des hommes forts, il avait des équipements de guerre. Alors pourquoi se tourne-t-il vers Dieu? En premier lieu, il aurait peut-être pu essayer par lui-même. Mais le texte nous dit qu'il était tellement effrayé qu'il n'entrevoyait qu'une seule solution. S'en remettre à Dieu comme premier et comme dernier recours. Sans toi, Seigneur, je n'y arriverai jamais. Chercher Dieu dans les grandes batailles de notre vie, là où on sait que sans lui, on n'y parviendra finalement jamais. As-tu déjà été confronté dans ta vie à une bataille si grande que seul Dieu pouvait te sortir de là? C'est le cas pour le roi Josaphat. Et d'ailleurs, il convoque un jeûne. Le jeûne, on en parle. C'est le fait de mettre à part du temps, le temps de son repas, pour prier, pour chercher Dieu. Alors aujourd'hui, on peut faire un jeûne de télévision, on peut faire un jeûne de téléphone portable, peut-être aussi de salle de sport, hein, pour celles et ceux qui se rendent régulièrement à la salle de sport. Bref, l'idée est d'arrêter quelque chose qui nous prenne du temps dans notre journée pour utiliser ce moment à une rencontre toute particulière avec Dieu. As-tu déjà pensé à jeûner quand tu demandes l'intervention de Dieu dans les batailles de ta vie? As-tu pris le temps de mettre de côté tes occupations, tes préoccupations, ce qui mange de ton temps finalement, pour consacrer ce moment-là à la prière, dans les temps de désert, dans les temps de bataille que tu vis? Et Josaphat décrète ce jeûne, ce sera un jeûne communautaire. Il va falloir chercher Dieu ensemble pour survivre. Avez-vous déjà pratiqué le jeûne en famille, avec des amis, le jeûne en église? Et Josaphat va efforcer son cœur, c'est ce que dit le texte, hein, à rechercher Dieu. Qu'est-ce que c'est que chercher Dieu? C'est ce que je nous invite à comprendre et à vivre aujourd'hui. Chercher Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas prendre la Sainte Cène, ce n'est pas non plus faire partie de l'équipe de louange, ni être moniteur de l'école du sabbat. Chercher Dieu, ce n'est pas non plus respecter le sabbat. Chercher Dieu, c'est avoir une soif de Dieu. C'est cultiver une relation personnelle avec Dieu. Une relation concrète, une relation authentique. Chercher Dieu, c'est avoir faim de Dieu, soif de son Saint-Esprit, soif de la parole de Dieu. Soif de ressembler à Jésus. C'est parler à Dieu, c'est rechercher sa volonté dans notre vie et avoir un désir de s'ajuster à la volonté de Dieu. Chercher Dieu, c'est aussi écouter Dieu et lui obéir. La Bible dit que Dieu veut se laisser trouver. C'est une bonne nouvelle. Dieu souhaite que tu le cherches. C'est un Dieu de relation qui n'attend que ça, finalement. Il espère vivre un cœur à cœur avec toi, un temps particulier, un temps d'intimité. Cherche Dieu. Cherche Dieu encore, continue jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans ta vie et dans la vie de ton Église. Loue, prie, aie soif de Dieu, cultive, aime sa présence et un besoin de sa présence à tes côtés. Les disciples ont cherché Dieu. Ils sont montés dans une chambre haute, vous vous souvenez, pour prier, pour louer Dieu, pour le chercher. Ils ont abandonné leurs occupations pour laisser Dieu agir dans leur vie. Ils ont persévéré. Des jours et des jours de prière, peut-être de jeûne ensemble. Et tout à coup, que s'est-il passé? Le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Et on peut lire, hein, d'ailleurs, les fruits de cette transformation fulgurante, 3000 conversions en un seul témoignage, en une seule journée. Pas par leur force, pas par leur beau discours, pas par leur intelligence, mais par le Saint-Esprit qui désormais agissait à l'intérieur de leur vie. Des hommes, des femmes qui se sont mis à part, qui ont pris du temps pour chercher Dieu, pour l'écouter. Et toi, quand tu prends un temps avec Dieu, est-ce que tu penses à lui laisser un temps, à lui aussi, pour te parler? Est-ce que tu sais faire silence dans ton cœur pour entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu veux apprendre à l'écouter, mais à l'écouter vraiment? J'aimerais nous inviter par un chant à nous rendre disponibles à Dieu, comme l'a fait ce roi Josaphat et son peuple. Seigneur, nous voulons te chercher, mais également entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Alors, on va chanter ensemble ce chant « À tes pieds, ô divin maître ».
Éloignez-vous de mon cœur. Tout
Dieu peut te parler de multiples manières, au travers d'un chant, comme nous venons de le faire, d'un message biblique, d'un partage biblique, de sa parole, la Bible, d'un prophète. Peut-être que Dieu peut te parler dans un encouragement ou dans un recadrage d'un frère, d'une sœur. Ou parfois tu sais que l'Éternel t'a parlé ce jour-là. Tu as senti cette voix dans ton cœur, une voix pénétrante, convaincante. Je t'invite à être attentif à la voix du Seigneur dans ton quotidien, mais surtout à t'organiser pour lui laisser du temps pour te parler. Parce que ça pourrait changer ta vie, à tout jamais. Parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans vivre une transformation profonde, guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Et il y a une transformation quand tu cherches Dieu, quand tu trouves du temps à chercher sa volonté, quand tu planifies ces moments dans ton quotidien que tu vas mettre à part dans sa présence. Alors ne donne pas à Dieu quelques minutes de fatigue en fin de journée quand tu es trop chargé pour entendre sa voix. Organise-toi. Donne-lui un temps de ta journée où tu es éveillé, efficace, disponible. Organise-toi, ça peut changer ta rencontre avec Dieu, ça aussi. Josias a cherché Dieu. Josias a été d'ailleurs transformé après avoir rencontré Dieu. On trouve son histoire dans quelques chapitres après notre thème du jour, 2 Chroniques chapitre 34. Le père de Josias est un roi, on sait qu'il a fait tout le mal possible et imaginable, hein, c'est un des pires rois d'ailleurs de cette période des rois. Et il meurt assez tôt, son fils Josias devient roi, il a 8 ans, c'est un enfant. Mais il fait le bien. Et à 16 ans, il a grandi, donc 8 ans plus tard, il prend une décision, celle de chercher Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Et voilà qu'un processus de transformation s'opère dans son quotidien, dans sa vie. Ses yeux s'ouvrent et il discerne davantage ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ça lui prend 4 ans et il a 20 ans quand il passe à l'action. Et ça va durer des années. Josias s'aligne à la volonté de Dieu. Il va purifier le pays, il va remettre Dieu au centre du royaume de Juda. Il va faire détruire les idoles, il va faire réparer le temple du Seigneur. Il va conduire le peuple avec lui à un temps de repentance, de pardon, d'humilité vers Dieu. Ils comprennent qu'ils ont agi dans le mal pendant tellement d'années. Ils se détournent de leurs péchés, ils vivent un changement de vie. Et oui, tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 dit « Offre au Seigneur ta personne ». C'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Ne suis pas les coutumes du monde dans lequel tu vis, mais laisse-toi transformer par Dieu, qui te donnera une intelligence renouvelée. Ainsi, tu pourras voir ce que veut Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Chercher Dieu, me mettre à son écoute, accepter d'être transformé, jour après jour, par son Saint-Esprit qui va agir en moi et qui va me révéler des zones qui sont pas en accord avec la volonté de Dieu, avec son projet pour ma vie, avec à ce à quoi il me destine. Chercher Dieu et mettre en cohérence mes pensées avec les siennes, ma volonté avec la sienne, ajuster ma vie à celle de Dieu. C'est ça, chercher Dieu. Et Moïse, ce grand Moïse, a cherché Dieu. Il l'a trouvé sur la montagne d'Horeb. Lui, le prince déchu, le fuyard assassin, il était alors berger, simplement berger. Et sur la montagne d'Horeb, il rencontre Dieu dans un buisson qui prend feu, un buisson qui prend feu. Et Dieu lui dit, « Moïse, Moïse, n'approche pas. Enlève tes sandales. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu qui est saint. C'est vrai que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es sur une terre sainte. Et la présence de Dieu exige que tu enlèves tes sandales. C'est vrai. il y a un caractère qui va devoir quitter ta vie. Dans mon quotidien, je me rends compte que peut-être j'ai des façons de parler qui doivent quitter ma vie. Je me rends compte, avec la lumière du Saint-Esprit dans ma vie, que je dois me dépouiller de certaines attitudes, de certains péchés, enlever ses sandales. Tu es devant le Saint des Saints. Et oui, tu seras appelé à renoncer à ces péchés cachés qui ont pris résidence dans ta vie. Parce qu'il n'y aura pas de place dans ta vie pour ce péché et en même temps pour le roi des rois, quand tu cherches Dieu. Tu apprends humblement à enlever tes sandales. Si tu veux une vie qui est bouleversée finalement, une vie comme Moïse, une vie comme les disciples, une vie comme tant d'autres encore qu'on retrouve dans la Bible. Si tu veux vivre des choses puissantes, sans enlever tes sandales, je crois qu'il est peu probable que tu puisses les vivre. Et je crois que Dieu conduit ta vie sur un chemin de puissance quand tu as accepté d'enlever tes sandales, de te dépouiller de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Dans les moindres recoins de ta vie. Pas de zone de non-droit pour Dieu, si tu veux qu'il t'utilise puissamment, comme Moïse, comme les prophètes, comme ses disciples dans la chambre haute. J'aimerais t'inviter à te laisser toucher par Dieu, à te laisser transformer par lui. Il n'y a pas de péché trop grand pour Dieu. Il n'y a pas non plus d'addiction trop difficile. Et c'est un Dieu qui veut t'aider dans ce chemin qu'on appelle le chemin de la sanctification, de devenir meilleur. J'aimerais t'inviter à accepter ce prix d'enlever tes sandales, de dire non au péché dans ta vie. Comme l'a fait Josias. Et parfois, tu comprends pas pourquoi tu cherches Dieu avec ton cœur, malgré tout. Mais le tout à coup de Dieu ne survient pas. Pourquoi tu as le sentiment de ne pas entendre Dieu te parler? Pourquoi tu ne vis pas les choses du Saint-Esprit que vivaient les apôtres? Tu te questionnes peut-être pourquoi tu stagnes dans ta vie spirituelle et t'aimerais tellement vivre ce que vivaient ces apôtres dans le livre des Actes, des moments de puissance. Merci. Ésaïe chapitre 59 verset 2 dit que ce sont nos crimes, nos péchés. Qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face. Et le texte nous dit, ce sont nos péchés qui parfois nous empêchent de l'écouter. Est-ce que ça te parle aujourd'hui? Alors permets-moi de te suggérer aujourd'hui que tu es à un plafond de ta vie. Peut-être personnel, peut-être spirituel, parce que tu as besoin de repentance. Moi, j'en ai besoin. Peut-être que tu as besoin, comme moi, de reconnaître que tu as des zones d'ombre dans ta vie, des endroits pas très jolis, que tu caches. Et Dieu aimerait t'inviter aujourd'hui à les mettre en lumière, à lui abandonner tout ça. Et j'aimerais que nous profitions de cette occasion pour nous réaligner aujourd'hui avec Dieu et prendre une résolution. Parce que Dieu aimerait tellement nous amener plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Abandonne, retire tes sandales. J'aimerais nous proposer de prendre un temps de recueillement, un temps pour soi, devant Dieu, à l'écoute d'un chant qui va se poursuivre. Et puis on aura quelques minutes, une minute, deux minutes, pour que chacun dans son cœur puisse réfléchir, peut-être s'ajuster avec Dieu, profiter de ce moment pour mettre en cohérence sa vie avec le Saint des Saints. Saisir cette occasion de retirer nos sandales. Peut-être que tu peux simplement, là où tu es, fermer les yeux, écouter et te laisser toucher par Dieu.
Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
Maintenant, déposer une lumière dans ta vie. J'aimerais t'inviter à l'accueillir. Cette lumière de Dieu qui vient te montrer ce qui doit être réformé, coupé, sorti de ta vie. Ces zones d'ombre que tu connais. Saisis l'occasion de demander pardon à Dieu pour tes erreurs, pour tes péchés, et demande-lui de te décharger de ce poids, de t'en libérer parce que Dieu veut te rendre libre. Demande à Dieu de te donner la victoire sur ce péché caché qui revient trop souvent dans ta vie et dont tu ne parviens pas à te défaire. saisis cette occasion aujourd'hui de changer de vie radicalement. Laisse-toi toucher par Dieu. Sois libre. Choisis aussi de te pardonner. Pour du mal que tu as pu faire, pour des erreurs qui ont été commises. Et accepte ce pardon de Dieu. Et n'oublie pas que Dieu veut te rendre libre. Que Dieu a un amour pour toi qui est profond, qui est sincère, durable. Malgré tes erreurs, malgré tes errances, ce Dieu t'aime. Ouais, il veut te rendre libre. Libre aujourd'hui, libre demain. Ta vie changera quand tu renonceras à tes sandales. Quelle est la bataille que tu as besoin de remporter aujourd'hui ? Est-ce que c'est la victoire sur un péché ? Est-ce que c'est être libéré d'une addiction ? Est-ce que c'est l'amélioration d'un caractère sur un point particulier ? Est-ce que ton combat est en lien avec un conflit qui est relationnel, que tu vis à l'école, que tu vis peut-être au travail ? Quelle est l'épreuve pour laquelle tu souhaites l'intervention miraculeuse de Dieu aujourd'hui ? Et j'aimerais étendre à une question et une dimension communautaire, quelles sont les batailles que vous avez besoin de remporter ? En Église, quels sont les défis que vous peinez à gagner ensemble ? Je prie que l'Éternel continue à parler à vos cœurs par le Saint-Esprit et à vous ouvrir à toutes ces zones, qui sont surtout des zones de bataille aujourd'hui, mais des zones de guérison, des zones de restauration, dans le nom de Jésus. Amen. Si on revient à notre texte de Chroniques, chapitre 20, voilà que Josaphat et son peuple sont donc dans le jeûne, dans la prière, en cherchant Dieu pour lui demander son secours. Les ennemis arrivent à eux, ils sont probablement là demain d'ailleurs. Quelle frayeur le peuple doit ressentir. Et le texte le dit, verset 4, de Chroniques chapitre 20, verset 4, « Les gens de toutes les villes de Juda se rassemblent en un même endroit, à Jérusalem, pour demander l'aide du Seigneur. » Nous sommes ici, rassemblés aujourd'hui, nous venons comme eux de profiter de ce temps pour chercher Dieu, pour demander le secours de l'Éternel sur les situations de nos vies, peut-être pour demander à Dieu sa direction pour notre Église, peut-être pour lui demander sa présence, pour nous aider à mener une vie chaque jour plus pure, plus glorieuse. Et le roi Josaphat se tient au milieu de son peuple et il prie. Verset 6, « Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui es dans le ciel, c'est toi qui gouverne tous les royaumes de la terre. Tu possèdes la force, tu possèdes la puissance, personne ne peut te résister. C'est bien toi, notre Dieu, qui a chassé les ennemis, quand Israël arrivait en ce lieu. C'est toi qui nous as donné ce territoire pour toujours. » Je retiens une première étape quand je cherche Dieu. Reconnais qui est Dieu, reconnaître ce qu'il a fait pour notre vie. Qui est Dieu ? Qui est ce Dieu pour toi ? Alors on peut le reconnaître, nos ennemis, Seigneur, ne peuvent pas te résister. Tu es plus grand, tu es même plus grand que tous nos ennemis, que même les plus grands de nos ennemis. Il te suffit d'un mot, Seigneur, pour nous guérir de nos maladies, ça je le crois, d'un seul geste, pour chasser nos addictions, pour mettre à terre tous ceux qui nous font du mal. Tu es le Dieu Tout-Puissant, rien ne te résiste, la Bible le dit, tu es capable de tout. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on parle du Dieu de l'impossible. et on vient demander de manière communautaire l'intervention de Dieu pour notre vie, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner la victoire, pour nous relever. Nous nous attendons à ce que Dieu puisse agir. Nous voulons reconnaître qu'il est Dieu ici, dans ce lieu, dans cette communauté. Nous nous attendons à sa délivrance, à son secours sur les situations que nous traversons dans nos vies, celles que nous avons évoquées dans notre cœur tout à l'heure, et que Dieu connaît parce qu'il sait lire les cœurs. Nous reconnaissons que nous sommes impuissants face à ces situations, à ces batailles que nous menons, et nous le prions d'intervenir parce que sans lui, nous ne serons pas victorieux. Nous avons besoin de sa main miraculeuse agissante aujourd'hui sur notre vie, sur notre Église. Et nous aimerions maintenant reconnaître au travers d'un chant que nous allons chanter maintenant et de manière communautaire qu'il est Dieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je vous invite à être libre de la position qui vous convient pour pouvoir chanter ce chant.
Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce
Dans sa prière, Josaphat continue, verset 9, « Un malheur nous attendra peut-être, une guerre, la peste, la famine. Nous viendrons vers toi, nous appellerons au secours vers toi du fond de notre malheur. Tu nous écouteras et tu nous sauveras. » Amen. Et c'est ce que nous venons de vivre, reconnaître qu'il est Dieu, demander son secours sur nos situations. Nous t'appellerons au secours, tu nous écouteras et tu nous sauveras. Ça paraît simple, trop simple, parfois, pour nos cerveaux humains rationnels. Et pourtant, ce texte nous invite à avoir la foi comme un enfant. Quand tu promets quelque chose à un jeune enfant, il te croit. Il sait très bien que tu tiendras sa promesse parce qu'il a confiance en toi. Aucun doute. Et peut-être que là, tu te commences à te sentir un peu inconfortable parce que tu as des doutes sur l'action miraculeuse de Dieu. Et c'est tellement humain. Mais j'aimerais déclarer maintenant que le doute, que les hésitations n'ont pas leur place ici, dans le nom de Jésus. Et la suite de notre texte va t'apporter quelques confirmations. Verset 14. Un prophète est suscité par Dieu pour encourager Josaphat. La parole de Dieu, elle arrive. C'est Yaziel, un lévite de la famille d'Asaph. D'ailleurs, Asaph était un des responsables du chant et de la musique dans le temple de Jérusalem du temps de David. Donc c'est un descendant de cette famille. Et ce prophète Yaziel lui dit, verset 15, « N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés par cette immense armée qui arrive vers vous. Le résultat du combat ne dépend pas de vous d'ailleurs, il dépend de moi, votre Dieu. » Ici, Dieu a suscité un prophète pour parler à son peuple. N'aie pas peur, le Dieu Tout-Puissant est aux commandes de ta situation. Et je trouve tellement rassurant, moi, ce passage, parce que je me suis tellement battue par mes propres forces, j'ai tellement essayé de faire face à mes ennemis, j'ai perdu beaucoup de plumes, je me suis fatiguée, je me suis blessée, éreintée à m'en sortir par moi-même, que de savoir que désormais ma situation concerne Dieu et que le résultat de cette guerre, des batailles que je vais mener dans mon quotidien, elles sont gérées par Dieu. Le résultat dépend de Dieu. Heureusement qu'il ne dépend pas de moi. Apprendre à avoir du recul dans ce combat et à laisser Dieu aux commandes de ma bataille. Et Dieu demande un pas de foi supplémentaire, verset 16. « Demain, vous descendrez contre votre ennemi qui monte vers vous. » Alors ça pourrait faire peur quand même. Mais le verset 17, « Vous n'aurez pas besoin de combattre contre eux. » Simplement, tenez-vous là, arrêtez-vous, regardez comment moi, le Seigneur, je vous délivrerai. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, allez à leur rencontre. Moi, le Seigneur, je serai avec vous. Dieu m'invite à aller vers mon ennemi, à ne pas me cacher, à l'affronter, en sachant que Dieu est plus puissant que lui, sachant que nous tenons la victoire, aller vers l'ennemi avec confiance désormais parce que l'Éternel des armées marche à nos côtés. Et à ces paroles, le roi Josaphat et le peuple qui ont entendu ce prophète parler au nom de Dieu se tiennent à genoux dans l'adoration, dans la soumission à Dieu. D'accord, Seigneur, on va lâcher prise sur nos problèmes, sur notre ennemi qui vient. Tu dis que tu nous sauveras, tu dis que tu marcheras avec nous. On veut te faire confiance. On veut abandonner nos raisonnements très humains pour simplement entendre et croire que ce que tu dis, tu l'accomplis. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à croire ce que Dieu dit. Je t'invite à aller au-delà de cette lecture, d'une belle histoire de la Bible pour te l'approprier. Accepte de lâcher prise, laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-lui les commandes de ta situation de vie. Laisse-le marcher à tes côtés, laisse-le agir. Parce que des choses victorieuses se passent quand l'humain laisse Dieu agir dans son quotidien. Et juste après ce temps à genoux, le peuple et Josaphat entonnent un chant de victoire. C'est étrange parce qu'il ne s'est encore rien passé. Ça me rappelle juste le cri de victoire, d'ailleurs, poussé juste au moment où les murs de Jéricho vont tomber. Un cri de foi, un cri de puissance. Rien ne laissait alors présager que la victoire allait d'ailleurs être remportée sur l'ennemi. Mais ces soldats avaient la foi. Et ils étaient délivrés, c'était ce qui leur était promis, ils avaient cru, ils ont découvert de leurs yeux la puissance, la toute-puissance de Dieu au travers d'un cri de victoire. Et tout s'était écroulé. La bataille était gagnée. La louange pour déjà crier victoire, la louange pour déjà s'approprier une victoire sur l'ennemi. Parce que lorsqu'on a la foi d'un enfant, comme je le disais tout à l'heure, et que papa a dit qu'il allait venir régler nos problèmes... Eh bien, on n'a plus à s'en faire, on se réjouit, on va jouer, on va faire plein d'autres choses. On se réjouit peut-être déjà de la délivrance, parce que même si on ne la voit pas encore, on sait qui va le faire. On peut déjà faire la danse de la joie, la danse de la victoire. C'est ça l'essence de la foi, croire en des choses qui surviendront tout à l'heure, demain, qu'on ne voit pas encore. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à ce pas de foi, à ce lâcher prise. Et si tu as encore des doutes, si ta tête fonctionne encore un peu trop, si tes émotions sont encore un peu trop fortes dans cette bataille pour laisser agir Dieu, eh bien, je t'invite à faire confiance à ce Dieu qui ne déçoit pas. Et peut-être aussi à crier à Dieu de venir au secours de tes doutes, de ton incrédulité. et sois soutenu par tes frères, par tes sœurs dans cette démarche de foi. Entonnons ensemble un chant de victoire sur nos ennemis, ensemble, dans la foi, comme un cri prophétique de ce qui pourra survenir pour notre vie, pour cette Église, et que l'Éternel nous donne de croire à cette victoire qu'il est tout près d'accomplir dans notre vie. Je nous invite à nous mettre debout pour entonner ensemble « Dieu a une armée ».
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de
C'est vivant quand même, ça fait du bien, une louange comme ça, puissante, ensemble. Amen. Le lendemain, tout le peuple se prépare à avancer vers leur ennemi, chargé par la louange qu'ils ont vécue la veille. Josaphat, le roi, le capitaine, le chef de guerre, leur dit, verset 20, « Mettez toute votre confiance dans le Seigneur et vous serez forts. Placez votre confiance dans les prophètes de Dieu et vous obtiendrez la victoire. » Et le roi Josaphat s'accorde avec le peuple pour une stratégie militaire comme il aime les faire. Ils décident ensemble de placer à la tête de l'armée des chantres, des personnes qui loueraient Dieu en disant « Louez l'Éternel, son amour durera toujours ». Les musiciens sont au front, en première ligne et chargés de louer Dieu pour sa bonté. Rappelons-nous qu'ils ne vont plus au devant d'une guerre. Dieu leur demande simplement de se tenir là, devant les ennemis, et il agira. Josaphat connaît Dieu, il a cherché Dieu avec son peuple, Dieu leur a parlé. Ils sont dans une posture d'obéissance. Et malgré les milliers de soldats qui arrivent contre eux, Josaphat, avec son peuple, décide d'un commun accord de mettre l'accent sur la louange face à l'ennemi. Petite piste pour ton quotidien, quand tu es face à ton ennemi, sois dans l'obéissance et loue Dieu, malgré tout. Et la fin de notre histoire dit ceci, versets 22-23, au moment où les chanteurs commencent à lancer des cris de joie, des cris de louange, le Seigneur commence son travail. Il sème le désordre, il place une embuscade parmi les Ammonites, les gens de Moab, les Édomites venus attaquer Juda. Et puis très étrangement, ils se battent entre eux, ils étaient venus ensemble, mais ils se battent les uns contre les autres, un peuple contre un autre peuple. Et quand le peuple de Juda arrive à l'endroit où on aperçoit ce désert, la victoire est gagnée sans bataille. L'armée ennemie est décimée, il ne voit que des morts couchés par terre. Aucun homme n'est resté en vie. Dieu a gagné sans que nous fassions bataille dans notre vie. Amen. C'est une belle leçon. Voilà une délivrance miraculeuse et le Dieu de Juda est toujours le même, aujourd'hui prêt, disposé, à t'accorder la victoire sur tes ennemis, à les terrasser et à te rendre libre. Le peuple de Josaphat revient joyeux à Jérusalem parce que Dieu les avait remplis évidemment d'une joie immense aux dépens de leurs ennemis. Ils rentrent dans la joie avec des chants de fête, tous les instruments de musique jusque dans la maison de l'Éternel, probablement encore pour louer Dieu de cette victoire. Et la fin du texte nous dit « La crainte de Dieu s'étendit sur tous les autres royaumes du pays et le royaume de Juda fut dans la paix sur toutes ses frontières. » Amen. Magnifique conclusion. Et je pourrais probablement conclure comme ça, vous souhaiter un bon sabbat, on va se saluer, on va se quitter, on va chacun rentrer à la maison. Mais je crois que nous avons besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire que j'aimerais illustrer aujourd'hui pour nous aider à affronter ce quotidien avec Dieu dans lequel on va très très vite se replonger dès qu'on quitte notre temps d'église. Et oui, nous avons besoin d'un petit coup de pouce de Dieu pour continuer cette transformation à l'intérieur de notre vie, sinon les mauvaises habitudes arrivent bien trop vite, et on le sait. Est-ce que je pourrais demander à un enfant, un jeune, moi j'en vois plusieurs ici, de venir vers moi pour une petite illustration de quelques minutes. Quentin, tu veux venir ? Désigné volontaire. Est-ce que tu peux me gonfler ce ballon, s'il te plaît ? Aïe. Vas-y, vas-y. Non ? Tu veux pas ? Vas-y, tu peux encore. Non, non, vas-y, vraiment. Ouais. On va le gonfler quand même. Hein. Voilà, c'est pas mal déjà. Je te remercie. Alors, reste par là. Ça, c'est notre petite vie, hein. On va l'illustrer comme ça. Dieu me remplit par son Saint-Esprit, d'accord ? Je suis gonflée à bloc, hein ? Je me sens bien, je suis alignée avec la volonté de Dieu. Le culte de ce matin, le temps de prière d'hier soir à la maison ou avec des amis, ça a eu un impact dans ma vie. Je me sens, comme on dit, gonflée à bloc. Je commence à vivre des moments de joie, je suis heureuse en Christ. Je commence à découvrir les dons du Saint-Esprit, la paix, la joie, tout ça, c'est nickel. Je me sens super bien, gonflée à bloc. Je viens de vivre un temps de communion avec mes frères et sœurs à l'église. Voilà. Et je m'apprête, comme tout un chacun, à rentrer à la maison. Mais sur le chemin du retour, je vais te laisser tenir le ballon. Je vais te faire l'illustration. Tu le tiens avec tes deux mains. Puis tu vas laisser passer des petits... Vous entendez, hein ? Voilà, stop. Vous entendez ce petit bruit, là, comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui vient de me barrer la route. Alors ça me touche, ça va m'énerver. Et puis je vais reprendre le travail lundi, et puis j'ai une petite embrouille avec un collègue de travail qui voit pas tout à fait les choses comme moi. Ah. Et puis cette personne m'a dit quelque chose de vraiment pas sympa. Ça m'atteint, alors je réplique par une parole blessante. Et je suis pas prête du tout à pardonner. Et puis un jour de beau, je profite du soleil, du shopping, je vais zapper mon temps avec Dieu, que j'avais programmé. Et puis mon enfant n'est pas sage, alors je l'ai grondé fort. Et puis je me fais gronder par mon conjoint qui me dit que j'ai grondé fort. Je suis fâchée avec mon fils, je suis fâchée avec mon conjoint, je suis fâchée avec moi-même, parce que j'ai grondé fort. Mais j'ai trop de fierté pour demander pardon, évidemment. Et puis aujourd'hui, j'ai pas super respecté le sabbat, quoi. Et en brossant les dents le soir, devant mon miroir, j'ai des idées pas très sympas sur moi, quand même. Je me dévalue, je suis trop nulle. J'y arriverai jamais. Voilà. Je te remercie. Voilà une illustration d'une petite semaine. Ça peut venir vite, quelques jours, une mauvaise parole à un mauvais moment. Je suis pas super bonne mine quand même, hein. Mais peut-être que sabbat prochain à l'église, je vais te dire que je vais super bien. Mensonge, un sourire de façade. Et puis, peut-être que je vais me dire que je ne vais pas aller à l'église dans cet état, parce que quand même, c'est pas très beau, ce que je vois. Et puis, je me sens peut-être pas digne de m'approcher de Dieu comme ça. Alors, peut-être que tu vas décider de lâcher l'affaire, tranquillement, Tu vas rester dégonflé, abîmé, sans perspective, sans force et sans penser que tu es digne de t'approcher de Dieu. Moi, j'ai déjà connu ça, hein, des ballons comme ça qui se dégonflent alors qu'on était super gonflé à bloc et puis ça redescend assez vite. Alors j'aimerais vous inviter, j'aimerais nous inviter à demander à Dieu la présence de son Saint-Esprit pour la semaine qui vient, pour la journée qui vient. Et je nous invite à le vivre tous les jours, à lui demander cette présence de ce Saint-Esprit qui puisse nous gonfler à bloc, nous soutenir, nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Faire cette prière chaque matin, demander à Dieu de revêtir ses lunettes pour que je prenne les bonnes décisions dans ma vie, pour que je sois en mesure d'aimer mon collègue qui n'est pas aimable sans répliquer, pour que je ne retombe pas dans mes péchés qui peuvent venir facilement, pour que je garde une perspective de Dieu dans ce que je fais et pour que je sois cohérente dans ce que je dis, dans ce que je vis, dans ce que je ressens. Nous avons continuellement besoin de son Saint-Esprit dans notre vie pour garder le cap. Et j'aimerais souhaiter à chacune, chacun d'entre nous, que nous continuions à chercher Dieu, à avoir le désir de lui ressembler, à laisser le Saint-Esprit agir en profondeur dans notre vie pour révéler des changements durables, lâcher prise sur nos combats, oser ce pas de foi de laisser Dieu faire et simplement d'apprendre à le louer pour ce qu'il fait, pour sa bonté, pour sa délivrance. Et je crois que nous verrons le miracle de Dieu s'accomplir autant dans notre vie que dans la vie de notre Église. Amen.